Je vais commencer par remercier Simon Pey et Pierre-Michel Menger pour l'invitation, au nom également donc, de Didier qui n'est pas là aujourd'hui, avec qui je mène des travaux depuis un certain nombre d'années sur les outils d'évaluation de la recherche. Et cette présentation est en fait, le thème émane en fait d'une enquête de terrain qu'on avait fait sur les classements de revues, à la fois en France suite à tout un mouvement qui est de controversés sur les listes de revues de l'ARS, mais également à l'échelle internationale. Et dans cette enquête, en fait, ce qui s'était avéré très intéressant pour nous, c'est de voir comment, pour les acteurs, la question de la bibliométrie... Excusez-moi, il faut que je fasse un réglage. Si je vois ma souris, ça ira mieux. Voilà. Comment la question de la bibliométrie était en fait quelque chose qui était désigné de manière unifiée et cohérente, à la fois du côté des gens qui étaient critiques, et donc de la plupart des chercheurs qui s'étaient élevés contre les listes de l'ARS, mais aussi les listes de l'ERI au niveau européen ou les listes australiennes. Donc ces gens pointaient les classements de revues comme quelque chose de mal et comme étant de la bibliométrie. Et quand on a fait l'enquête avec Didier auprès des concepteurs de ces outils, ce qui nous intéressait et qui était vraiment un résultat émergent du terrain, c'est de voir comment ces gens qui fabriquent ces classements de revues, notamment pour les sciences sociales, mais pas seulement, se lançaient et donc innovaient sur le plan de l'outil d'évaluation de la recherche, fabriquaient ces classements de revues contre ce que eux aussi désignaient la bibliométrie. Et donc, la présentation d'aujourd'hui est une sorte d'émanation de cette première enquête où on s'est intéressé à la bibliométrie, mais justement en essayant de déconstruire et de regarder d'un peu plus près ce que la bibliométrie comme formule un peu générique recouvre. Et quand on fait l'enquête, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué que juste ce qui est souvent identifié comme la bibliométrie, le facteur d'impact, dont je vais parler bien entendu, mais on va voir comment c'est un peu plus complexe et comment l'histoire que je vais brosser donc, en 25-30 minutes est à grands traits, mais beaucoup plus complexe que ça. Et ce qu'on a essayé de faire dans ce travail, c'est d'identifier différentes configurations. Donc j'oublierai peut-être de le dire à la fin, donc je le dis tout de suite. Je vais parcourir très vite trois configurations qui émergent successivement dans le temps, mais qui aujourd'hui coexistent. Donc soit de manière articulée, soit de manière concurrentielle. Donc première configuration, elle commence bien entendu, pour ceux qui connaissent un peu, avec Eugène Garfield, qui a donc fondé cet Institute for Scientific Information. Juste rappeler que Garfield n'est pas un manager extérieur au monde de la recherche, c'est un linguiste, et son problème, c'est la question du tri et de l'identification de l'information pertinente parmi la masse d'informations qui est publiée chaque jour dans le monde de la recherche. Et son travail, il le fonde sur une tradition relativement développée, relativement importante, de ce qu'on appelle les sciences de la documentation, qui sont donc des travaux qui, dès les années 20, avaient produit tout un tas de savoirs et proposé des modèles pour trier et identifier des informations, des sources. Et il s'appuie notamment sur le travail de Gross et Gross, qui en 1927 ont apporté une sorte de réponse un peu originale à une question très classique dans ce monde des sciences de la documentation. La question, la voici, quelles sont les revues qui doivent figurer dans la bibliothèque de telle université, au nom des étudiants, au nom du staff? Et donc, comment choisir parmi l'offre des revues celles qui sont pertinentes et qui vont être vraiment lues et auxquelles il faut s'abonner? Et leur réponse, c'est de dire, comptons les citations, comptons la façon dont une revue en particulier est citée dans les autres revues. Et donc, c'est une réponse à l'époque très originale sur laquelle va se fonder Garfield. Et dans cette réponse, on a deux choses qui se dégagent. C'est qu'on a une distribution inégalitaire du nombre de revues. Quand on fait un nombre total de citations, on a vraiment une distribution inégalitaire. Et donc, Gross et Gross identifie... La formule viendra quelques années plus tard par Bradford, mais ce qu'ils appellent des revues centrales. Donc en gros, au lieu de lire et de s'abonner à toutes les revues, il suffit d'identifier les revues centrales dans lesquelles en fait la majorité des revues d'un domaine est citée. Et donc il suffit de lire ces articles et pour avoir une sorte de synthèse de ce qui est publié. Donc la notion de revue centrale est très importante. Et deuxième proposition qui ne vient pas de Gross et Gross, mais qui est toujours dans cette tradition, pour éliminer l'effet de structure de distribution inégalitaire, on propose des ratios. Donc je ne développe pas sur l'algorithme puisque j'aimerais me centrer sur les jeux de données, mais en gros c'est sur cette tradition entre distribution inégalitaire et revue centrale et ratio que Garfield fonde ce qu'on appelle le facteur d'impact, mais qui s'appelle en réalité le journal impact factor, donc le facteur d'impact des revues. Et c'est très important comme point, on est sur la question des revues. Mais Lizzie avait avant proposé de nombreux produits et de nombreux services, dont un a connu un grand succès bien avant le facteur d'impact, qui date de 1975, qui était donc dans les années 60, qui sont les current contents, et qui était en fait une compilation des résumés des articles à paraître par domaine, qui était mis à la disposition des chercheurs, et donc avant que les articles soient parus dans les revues, il y avait une, on est encore dans le monde du papier, hein, on viendra au big data à un moment dans la présentation, donner accès aux chercheurs à ce qui allait effectivement être publié. Alors, je ne vais pas revenir sur le Science Citation Index comme jeu de données et sur la fabrique longue et difficile de ce jeu de données, puisque vous avez la thèse de Paul Wouters, qui s'appelle The Citation Culture, qui est en ligne. Il a très gentiment mis sa thèse en PDF, il vous suffit de taper son nom et de Citation Culture. Mais ce qu'il a montré, en fait, c'est que dans l'ambition première de Garfield dans la construction de ce jeu de données, c'était de réaliser un index de citation sur le modèle du Shepard Citator, qui est en fait une base de données couvrant l'ensemble des décisions judiciaires américaines, qui permet en fait de savoir dans le système jurisprudentiel américain quelles sont les règles de droit qui sont encore en vigueur. Si des arrêts et des décisions de juges citent des articles de droit, bien entendu, on sait qu'est-ce qui est en vigueur. Et donc c'est sur ce modèle-là qu'il a fabriqué le jeu de données, le Science Citation Index, un jeu de données qui a été assemblé pour la première fois en 1964. Alors, première originalité pour l'époque, et c'est pour ça que Garfield est une figure qui marque encore l'esprit et cette histoire, c'est que c'est le premier jeu de données transdisciplinaire. Il y avait eu avant un premier jeu de données qui avait été relativement massif en chimie, mais avec le Science Citation Index, on rentre dans quelque chose qui permet de faire des requêtes transdisciplinaires et on peut circuler et suivre les citations de chaque article dans différentes revues. Deuxième élément, qui rejoint des choses qu'ont un peu raconté à un autre niveau Jérôme et Samuel, c'est la question de la machinerie. Pour fabriquer ce genre de choses, où on peut tracer les titres, le nombre de références, le premier auteur dans un premier temps, puis tous les auteurs plus tard, il faut une armée de personnes, et notamment des femmes, qui lisent les revues, les épluchent, et codent à la main, enregistrent les citations que fait chaque article. Et donc c'est un travail long, fastidieux, de vérification, et qui est également très coûteux sur le plan de l'infrastructure, on va dire, organisationnelle, et également avec les machines. Alors, tout ça pour dire que si aujourd'hui on a cette vision du Science Citation Index comme quelque chose qui serait effectivement quelque chose qui est privé, qui est une boîte, en même temps, c'est quelque chose qui, pour revenir sur des choses, des liens entre science et autre chose, c'est quelque chose qui a largement été financé par les NIH et la National Science Foundation, qui a failli couler Lizzie, et c'est grâce aux revenus générés par les current contents que Garfield s'en est sorti. Mais en gros, on est dans quelque chose qui a failli ne pas exister. Alors, pour certains, ça aurait peut-être été mieux, mais en gros, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très long et fastidieux à monter, et quand c'est paru pour la première fois en 1964, est relativement encore fragile et pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, le jeu de données, c'est le Science Citation Index, mais vous le voyez maintenant sur ces volumes, on est un peu plus tard, on est en 75 et en 69, vous avez le Journal Citation Reports, qui est en fait l'outil bibliométrique, c'est-à-dire l'association entre le facteur d'impact et ce jeu de données qui donne un outil bibliométrique qui donne des informations qui portent sur les revues à partir d'une agrégation de données faite sur les articles. Donc, ça c'est la couverture. Une fois qu'on est dans le livre, voici le Journal Citation Reports, qui vous donne les facteurs d'impact des revues, mais avant de donner les facteurs d'impact, on est toujours dans cette tradition du nombre total de citations, donc ce monde de la tradition de Grosse et Grosse et des sciences de la documentation, et donc vous avez à droite des revues qui sont classées selon le nombre total de citations, avec pour les colonnes A et B, en fait, ce sont les années 65 et 75. Et point important dans cette histoire, c'est que comme, grâce à la technique de Grosse et Grosse, on identifie les revues centrales, Une fois qu'on les a identifiés, à l'intérieur de ce paquet, toutes les citations se valent. Puisqu'on a identifié la crème des revues, on considère d'un point de vue de la pondération qu'on n'a pas besoin, toutes se valent. Je reviendrai dessus, c'est un point important. Et donc parmi ces colonnes, dans le Journal Citation Report, vous avez la colonne D, qui est en fait celle du facteur d'impact. Alors à partir de là, au lieu d'avoir des données riches et foisonnantes, puisqu'on a tout un tas de colonnes, là on n'a qu'un bout, hein, vous avez différents types d'indicateurs, nombre total de citations et autres, on peut choisir de représenter une revue, qui est bien sûr listée dans le SCI, puisqu'elles ne sont pas toutes prises en compte, par un simple nombre, et donc par exemple le facteur d'impact. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment Garfield, se fondant sur une tradition de science de la documentation, avec en gros en ligne de mire une question vraiment informationnelle, comment faire le tri parmi la masse et comment trouver l'information pertinente en tant que chercheur sur une question, en tant que bibliothécaire pour trouver les bonnes revues, en tant que politique scientifique pour identifier des thèmes. On est vraiment dans une question de tri de l'information. En fait, le succès des outils de Garfield prend d'abord chez les scientomètres et les sociologues des sciences qui s'en servent, eux, comme des produits non pas de collecte et de tri de l'information scientifique, mais comme outil de repérage et de description des milieux scientifiques, description de la morphologie des domaines, de l'évolution des thématiques de recherche, de repérage de groupes et de collectifs se mettant, qui sont en train de se former. Donc ça prend beaucoup plus au début sur des gens qui s'en servent comme des outils d'analyse pour décrire et faire des analyses sur le domaine scientifique. Avec quelques connexions encore timides, mais qui sont quand même présentes, puisque les scientomètres sont très à la charnière entre, on va dire, faire la science de la science et faire la science de la science au nom de politiques scientifiques. Donc on a quelques connexions avec les politiques scientifiques, mais en gros, on reste dans des problèmes analytiques plutôt que d'information et de prise de décision politique. Autre acteur qui est très rapidement mobilisé sur la question du facteur d'impact, dès 1975, vous avez des revues, pour qui c'est la colonne significative dans le Journal Citation Reports. On oublie le nombre total de citations, on oublie toutes les autres informations, on se concentre là-dessus, et ce sont notamment les revues qui publient des Reviews Articles, donc les articles qui font des synthèses de questions, qui s'emparent de cette colonne et qui expliquent combien elles sont bien classées, première ou deuxième, et comment c'est certifié par le Science Citation Index. Donc des revues qui, en gros, dans les domaines, sont des revues qui ne publient jamais de ce qu'on appelle de la recherche originale, puisqu'elles ne produisent que des articles de synthèse, qui deviennent en fait des acteurs très intéressés pour se positionner comme étant comme meilleurs face à des revues qui, elles, produisent des journals, de la recherche originale. Dans les années 80, on se met à comparer et à discuter Journal Impact Factor comme une mesure objective à laquelle qu'on compare à des échelles de valeur subjectives. Donc là, on est en social sciences, comme vous voyez. Et dans certains milieux, le facteur d'impact, à un moment, devient la valeur objective et de jugement et de décision, et donc l'emporte sur ces formes de jugement subjectif. Par exemple, questionnaire où on demande aux gens de classer les revues, on va directement sur la colonne. Et dans les années 90, en 10 ans en gros, donc plutôt dans les années 80, ça commence faire un peu de bruit et on a complètement basculé dans certains domaines comme les sciences biomédicales où pour choisir les revues dans lesquels publier et auxquels les bibliothèques doivent s'abonner, pour choisir comment on alloue les financements à des laboratoires ou à des chercheurs, et comment on rétribue même des auteurs dans un laboratoire, on va s'appuyer sur le facteur d'impact uniquement. C'est très clair. Hein. Donc cet endocrinologue, Fernand Labrie, qui explique qu'il attribue les ressources et les promotions dans son laboratoire sur la base des publications indexées sur le facteur d'impact. Et la phrase qui est importante, c'est la dernière. Quand on lui demande s'il ne trouve pas quand même ça un peu compliqué, un peu direct, il explique que ce n'est pas plus cruel que la vie elle-même. Alors, d'un certain point de vue, c'est du big data en termes de données produites, mais pas en termes d'usage, puisqu'on est sur des données propriétaires Mais on a quand même une accélération avec le passage à de la version papier que je vous ai montré dans les diapositives précédentes à la version CD-ROM qui est vendue, alors bibliothèque ou au labo. Et après, par le rachat de Lizzie par Thomson, au passage du Web of Science. Mais on reste quand même dans un monde qui reste donc payant et monopolistique. Alors pour autant, on a une multiplication des usages qui alimente une certaine forme de critique et une critique grandissante. Alors, trois principales critiques, je vais aller très vite. La première, c'est à la fin des années 90, où déjà un certain nombre de chercheurs en sciences sociales vont pointer les limites du périmètre des revues et de la couverture de la base de données, du jeu de données, disant qu'en gros, c'est majoritairement des revues anglo-saxonnes. Forcément, c'est un outil anglo-saxon dédié à la base aux bibliothèques universitaires. Deuxième critique, c'est celle de la diversité linguistique, où en fait, comme ce sont surtout des revues anglo-saxonnes, il y a tout un tas de revues françaises, espagnoles, brésiliennes, ce que vous voulez, qui ne figurent pas, et donc ça tire vers publier en anglais dans des revues qui sont indexées par Lizzie ou Thomson. Et puis troisième critique, qui est plus dans les années 2000, qui est une critique beaucoup plus générique sur le jeu de données lui-même, avec le caractère privé des données, et donc le caractère inaccessible. C'est-à-dire que si on veut reconstituer le facteur d'impact ou le jeu de données, même en le faisant à la main, les scientomètres qui s'appuient régulièrement sur ces outils pour, encore une fois, pour faire de la description des domaines scientifiques, ont du mal parce que les données ne sont pas ouvertes et ne sont pas publiques. Donc il y a des critiques de plus en plus fortes sur ces points-là. Autre élément, c'est celui, là je développe absolument pas, ça pourrait faire l'objet d'une présentation en tant que telle, c'est la façon dont les revues, pas que les chercheurs bien évidemment, mais ce qui est intéressant ici, c'est les revues, comment les revues se sont mises, une fois que c'est devenu un outil central et important dans leur domaine, se sont mises à faire du gaming, comme on dit en anglais, c'est-à-dire à jouer le jeu tout en jouant à la marge, voire du cheating, et donc à tricher. Et donc vous avez tout un tas de façons de pratiques qui sont décrites ou épinglées, où on essaye de gonfler, on gonfle, on fait du dopage du facteur d'impact, et donc on oblige par exemple les auteurs à citer dans leurs articles des articles de la revue dans les 2 années, puisque la fenêtre de tir de l'algorithme, c'est les 2 années précédentes. On oblige, par exemple, on essaye bien sûr de faire entrer sa revue dans le Web of Science. Il y a tout un tas de choses. Vous avez des articles qui sont dédiés à ça. Vous avez le top 10 des façons de manipuler son facteur d'impact. Vous avez donc des articles consacrés à la question. Vous avez également, très récemment, des cartels de citation. Donc plutôt que de demander aux auteurs qui vous envoient un article de citer des articles déjà publiés dans votre revue pour gonfler le facteur d'impact, vous faites un accord à plusieurs éditeurs de différents types de revues, ou vous êtes vous-même dans plusieurs revues, donc vous faites des choses comme ça, et donc les citations viennent d'autres revues. Et vous avez des cartels de citations, encore une fois, tout ça c'est des mots des acteurs eux-mêmes, qui sont identifiés, qui ont même conduit Thomson à bannir des revues, en leur disant « votre facteur d'impact est monté d'une façon tellement bizarre du point de vue de... » en gros, il y a un pic tellement fort que ce n'est pas possible, vous avez fait de la manipulation, donc vous êtes puni. Pendant 2 ans, vous n'êtes plus référencé dans le Science Citation Index, on ne vous calcule plus aucun facteur d'impact. Seulement 2 ans. Si vous tenez à carreau, on vous réintègre. Donc de ce point de vue-là, sur la configuration 1, là je vais très vite là-dessus, mais on a... deux modifications intéressantes. La première, c'est l'inauguration d'une forme d'économie du crédit scientifique assez différente. En gros, pour le dire à grands traits, on passe du publier pour produire des connaissances et faire circuler de l'information scientifique à publier pour être cité. Et je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'avais consacré ma thèse à l'authorship, et on voit comment ça a complètement transformé dans certains domaines la façon de signer les publications, et de pondérer même les places en fonction du nombre d'auteurs. Deuxième élément intéressant, et ça rejoint plus cette question de la manipulation, quand Lizzie se met à bannir des revues, on voit comment ce genre d'acteur devient éventuellement, en tous les cas, en faisant ce geste, même s'il n'assume pas le geste jusqu'au bout, comment ce ne sont plus les revues elles-mêmes qui sont l'arbitre de certaines bonnes pratiques de publication, mais comment c'est une instance comme Thomson qui se met à endosser ce rôle de régulation et de définir ce qu'est une bonne pratique de publication et de production. Alors, malgré tout ce gaming, malgré toutes ces affaires qui sont très contemporaines, pendant très très longtemps, que ce soit les promoteurs de ces outils ou les critiques, qui sont montés dès un article central de Seglen en 92, pendant très longtemps, on avait un argument dans les éditos de revues ou par les chercheurs eux-mêmes, qui étaient contre cette montée, cette omniprésence du facteur d'impact et de l'ISI, on avait un argument thatcherien qui était « there is no alternative ». C'est horrible, c'est n'importe quoi, le jeu de données est privé, on ne comprend rien, ça mesure n'importe quoi, mais bon, il n'y a rien d'autre, on ne peut rien faire. Donc deuxième configuration, c'est l'entrée en scène d'outsiders dans l'industrie bibliométrique qui construisent d'autres jeux de données et qui interviennent en même temps, en 2004. D'un côté, vous avez l'éditeur néerlandais Elsevier qui a lancé Scopus, donc un service payant qui donne accès au texte intégral, mais également aux articles citant et cités. Et puis de l'autre, de la même année, novembre 2004, vous avez le géant du web Google, qui a mis en place son propre jeu de données associé à son moteur généraliste, mais le jeu de données, c'est Google Scholar. Et donc là, vous avez deux jeux de données concurrents qui se mettent en place, l'un étant payant, l'autre étant en ligne, et tous les deux se positionnant comme des concurrents potentiels à LizzyWoz. Et dans ces deux cas, c'est l'inverse de ce que, dans l'histoire, on construit d'abord le jeu de données, et ensuite on implémente sur ces jeux de données des algorithmes. Et ce qui se passe justement, c'est qu'à partir de du début des années 2000, on assiste à deux phénomènes simultanés, notamment dans les cercles scientométriques. D'une part, les vieux algorithmes, parce qu'on parle du facteur d'impact, mais si vous ouvrez la revue Scientometrics ou Jazzist ou toutes les revues qui sont spécialisées, vous avez des algorithmes qui sont produits régulièrement. Donc on a des vieux algorithmes qui sont testés sur ces deux nouveaux jeux de données, avec des comparaisons des trois jeux de données, qu'est-ce que l'algorithme donne. Et vous avez des nouveaux algorithmes qui sont continuellement proposés quasiment tous les jours dans les articles qui sont publiés. Alors ce que je vais faire là, c'est de me concentrer très rapidement sur deux algorithmes qui ont connu tous les deux un succès assez important. Le premier, c'est l'influence weight. En fait, il a été proposé au même moment où Garfield s'était lancé par un bibliométricien qui s'appelle Francis Nerin, qui lui défendait une conception complètement différente de Garfield. Lui, la question, ce n'était pas le tri de l'information, lui, c'était assumé comme ça, essayant de développer une bibliographie évaluative, dans laquelle toutes les citations ne se valent pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour lui, il fallait fabriquer un algorithme qui repose sur un modèle récursif. Et donc, ce n'était pas on identifie les revues centrales et toutes les citations à l'intérieur se valent, c'était plus une citation provient d'une une revue qui est très citée et qui cite peu, plus cette citation a du poids. Donc, on pondère la citation en fonction de l'entité citante. Alors, si l'algorithme était simple, il a été difficile à déployer sur un jeu de données vaste à l'époque, on est dans les années 70, vu la puissance de calcul disponible, et donc l'algorithme est tombé un peu en désuétude, et Nerin lui-même s'est un peu déplacé ses intérêts sur les questions des brevets. L'algorithme a fait une réapparition, a été redécouvert, non pas en scientométrie, mais en webométrie, au moment où Page et ses collègues voulaient mettre de l'ordre dans le web et ont mis en pratique l'influence weight, c'est vraiment le même algorithme qu'on connaît tous aujourd'hui sous le nom de PageRank. Et donc deux conséquences sur cette histoire très rapide. Premièrement, avec cet algorithme, on renforce l'importance du lieu de publication, puisqu'on est sur un modèle récursif, et donc que ce soit une page web en webométrie ou un article, une revue en scientométrie, on renforce avec cette pondération du lieu de citation l'importance du support. Et deuxièmement, maintenant qu'on a trois jeux de données assez conséquents, donc le Science Citation Index, Scopus et Google Scholar, pour un même algorithme, on a trois résultats différents. Donc alors qu'on avait un facteur d'impact, maintenant on peut avoir trois influence weights. Deuxième algorithme qui a lui aussi connu un succès grandissant, je ne vais absolument pas développer la conception qui est aux yeux de scientomètres qui leur fait s'arracher les cheveux, puisque en gros produit par un physicien sur un jeu de données par Google et mise en œuvre l'outil biométrique par une chercheuse en management, donc quelque chose qui est horrible pour ces gens-là. Mais en gros, l'objectif principal du H-Index, c'est de sortir complètement de la revue, puisque depuis tout à l'heure, je vous parle d'algorithmes et de jeux de données dont l'entité centrale est la revue, c'est de fabriquer une valeur et de subsumer sous un seul nombre entier la valeur d'un chercheur. Donc on n'est plus du tout sur l'article ou la revue, on est sur la personne. Et cet algorithme a été opérationnalisé donc sur le jeu de données Google Scholar par Anu Ilarzing, qui a mis en ligne en octobre 2006 un petit programme nommé Publish or Perish. Un petit programme et un outil qui ont grandement contribué à la popularisation de l'algorithme H-Index, bien au-delà des cercles scientométriques et bibliométriques. Et ça a initié un véritable basculement. Pour le dire vite, c'est la bibliométrie à la maison. Tout le monde équipé d'un PC peut faire des requêtes sur soi-même, sur ses collègues, sur les candidats. Et donc, on sort d'un monde, on va dire, de professionnels qui sont les bibliométriciens, les scientométriciens qui produisent des algorithmes et produisent des modèles à partir d'algorithmes dont ils savent, la contenance, pour ouvrir complètement sur des choses dont on maîtrise encore moins le jeu de données, puisque Google puise à la fois dans ce qu'il appelle de l'académique et du non-académique, mais on ne connaît pas vraiment la consistance du jeu de données. Là, l'algorithme, on le connaît, mais comme il est sur l'outil, on ne sait pas jusqu'à quel point il est. On ne connaît pas jusque le contenu même. Et donc là aussi, on a eu tout un tas de manipulations, mais des manipulations qui étaient moins de dire je gonfle ma revue, puisque là on est sur les auteurs. C'est des gens comme Cyril Labbé, qui est à Grenoble, qui a inventé un auteur, I Can't Care, donc de faux articles publiés sur Google, cité par de vrais articles ou de faux articles, et donc I Can't Care est un chercheur, un avatar, qui a un H-index énorme. Donc vous avez ce genre de choses, donc là c'est fait dans une perspective critique, mais vous avez des gens qui le font dans une perspective stratégique et utilitariste, et donc en réaction, en scientométrie, on a fabriqué non pas le H-index, mais le Q-index, on est bientôt à toutes les lettres de l'alphabet hein, sur le nombre d'index. Et donc c'est un algorithme qui sert à détecter les écarts à la distribution attendue des auto-citations. Donc on fabrique un index qui vient corriger ou identifier les manipulations du H-index. Alors faire du H-index, c'est l'inverse de ce que je racontais sur l'influence weight. On est complètement déconnecté du lieu de publication, et donc il y a une balance à un moment dans la façon de rechercher la notoriété ou la citation, entre faire des articles à la mode qu'on balance sur le net ou publier dans une grande revue. Puisque la courbe, je vais pas revenir sur l'algorithme et la courbe, mais à un moment, on va dire, à un moment, il vaut mieux faire du net sur des sujets à la mode, et à un moment, il vaut mieux faire beaucoup moins d'articles, mais sur des revues relativement cotées dans la première configuration. Troisième configuration, que je vais passer très vite. Donc on a des critiques de l'algorithme du facteur d'impact, puisqu'en fait c'est une moyenne sur une distribution de puissance. Je ne vais pas développer, on en discutera si ça vous intéresse. Ça a été très fortement critiqué à la fois en scientométrie, mais également en mathématiques. Quand les mathématiciens s'intéressent à la question, bien entendu, ils ne font pas semblant, et donc ils ont fait un gros rapport expliquant qu'en fait c'était n'importe quoi d'un point de vue mathématique. Et en gros, ils ont développé quelque chose qui peut se résumer en une phrase, c'est la dernière. Numbers are not inherently superior to sound judgments. Voilà, les mathématiciens ont parlé. Cette critique continue et l'année dernière, vous avez une déclaration qui elle aussi a critiqué la bibliométrie, mais là, un certain type de bibliométrie, et notamment les bibliométries qui étaient indexées sur la revue. Et donc, c'est une déclaration qu'on peut lire et signer, mais qui prône l'élimination de toute forme de métrique fondée sur les revues pour revendiquer d'autres formes de métriques. Donc, ce n'est pas les métriques ne valent rien, on va dire, comme les mathématiciens juste avant. Il suffit de juger. Là, ce qui est intéressant, c'est de fonder les jugements sur des nouvelles métriques d'évaluation qui sont fondées sur l'attention et l'audience, et donc sur les webométriques. Parallèlement à ces critiques, vous avez une accélération de l'innovation en matière de métriques, d'évaluation de la recherche, avec un véritable marché des métriques et des mesures qui se mettent en place depuis un certain nombre d'années. Mais par exemple, en 2009, Bollen et ses collègues ont identifié 39 mesures de l'impact et ont fait une AFC là-dessus pour voir justement la distribution. Et puis donc, vous avez des mesures alternatives qui sont promues par de nouveaux acteurs et qui promeuvent ce qu'ils appellent des alternative metrics, notamment PLOS ONE, donc un acteur très important, un acteur collectif très important engagé dans le mouvement Open Access, qui promeut la large diffusion des productions et des connaissances scientifiques, et donc qui propose des mesures alternatives focalisées sur les articles. Donc là, on n'est plus dans la revue, on n'est plus dans l'auteur, on est dans l'article. Donc la valeur ne se fonde plus, encore une fois, sur ces deux autres choses. C'est l'article et sa valeur qui importent dans ces nouvelles métriques. Et donc on a les article level metrics, qui sont en fait une palette d'indices pour lesquels on a accès au nombre de citations dans de multiples jeux de données. Donc là, vous avez Scopus, vous avez Crossref, vous avez PMC qui est la base centrale en biomédecine aux États-Unis, vous avez le WOS, vous avez Google, il est encore en train de chercher. Vous avez des mesures d'usage qui débordent largement les limites traditionnelles, on va dire, en scientométrie, hein, des usages, vous allez voir ce que c'est. Ce sont tous les types de gestes, on va dire, académiques ou non académiques qui sont pris en compte. Le nombre de likes sur Facebook, le nombre de tweets, le nombre de références dans Site You Like. Donc, vous avez tout un tas de choses. Et ce qui importe, c'est de proposer au lecteur de valuer également l'article selon plusieurs critères, sa pertinence, sa lisibilité, sa fiabilité, son style. Et pour ce panier de mesures, on a les différents comptages qui sont mis au même niveau, donc une forme d'agrégation générale reséparée sur les donc en réseaux sociaux, académiques. On peut suivre la trajectoire des discussions du contenu de l'article et donc voir les types de citations. Ça, c'est un gros débat en scientométrie. Est-ce qu'on cite parce qu'on fait une référence, on fait de la déférence, ou est-ce qu'on critique, est-ce qu'on cite un copain? Donc là, vous pouvez revenir à la source, les discussions qui sont à la source donc, de ces citations. Et ce qui est possible aussi, c'est de faire une mesure agrégée pour positionner l'article par rapport aux autres dans la même revue ou au même moment. Et donc, ce qui est recherché avec ces mesures alternatives, c'est de s'appuyer sur une multitude de jeux de données qui sont ouverts, qui renvoient à des conceptions d'usagers très contrastées et non hiérarchisées. Hein, donc, vous avez là les Facebookers, les Twitter, les reporters, vous avez tout un tas d'acteurs très différents qui sont encore une fois non hiérarchisés, mais avec cette idée de faire une mesure agrégée globale, ce qui est recherché, c'est l'impact total de l'article. Un seul article, essayer de faire un panier de mesures à la fois diversifié et selon le type d'usager, ben je puise plutôt dans les tweets ou plutôt dans Facebook ou plutôt dans autre chose, mais au final, la tentative, c'est d'appréhender l'impact total d'une pièce, on va dire, d'une information scientifique qui est un article. Alors ici, la valeur n'est plus dans la certification préalable et le statut de la revue, comme dans le facteur d'impact ou l'influence weight. Elle se joue à partir de multiples jeux de données qui permettent des mesures d'usage différenciées, elles-mêmes diversifiées aux yeux du public. Et donc là, on a une notion qui monte depuis un certain nombre d'années qui s'appelle le post-publication peer review. Et donc on sort de l'évaluation par les pairs qui se joue avant la publication. Et donc les pairs, c'est plus seulement les comités de rédaction, ce sont tous ces gens-là qui deviennent le cercle pertinent des gens qui donnent de la valeur à la production et à l'information publiée dans l'article. Et donc, d'un certain point de vue, on fait du lecteur le valideur du contenu, mais le lecteur, encore une fois, se déclinant sous des formes très très variées et qui peut s'appuyer à la fois sur des citations, mais qui peut faire également tout un tas d'autres choses, comme, je l'ai montré tout à l'heure, de la notation, comme dans la restauration, sur TripAdvisor, donner des étoiles ou des choses comme ça. Et donc là, on a un nouveau basculement sur l'économie du crédit scientifique, puisqu'on a une forme de naissance du publiant marketeur, qui est une figure ici totalement légitime. C'est-à-dire, avant, le fait de faire de l'autopromotion, c'était horrible. Je veux dire, on ne jouait pas du tout le jeu de la science. La science, les pairs parlent, c'est publié dans une revue cotée. Et en gros, le jeu de la science va faire qu'on a de la réputation qui s'accumule ou pas. Ici, pas du tout. Ici, c'est pas ça. Ici, on publie quelque chose et on en parle tout de suite sur Twitter, sur Facebook, et c'est pas du tout horrible. Donc on bascule complètement et on a une vision, on va dire, politique de ce que c'est que faire de la science, de faire circuler l'information et de ce qu'est l'évaluation du travail scientifique qui sont radicalement différentes. Deux slides. Comme dans tout marché, j'y vais à la serpette. Comme dans tout marché, on a également une économie de la mesure, mais on n'a pas seulement une concurrence entre des entrepreneurs de mesure et des formes d'usage, on a également une montée des imitateurs et des faussaires. Il n'y a pas de marché sans faussaires. Ça sera mon argument un peu fort. Et donc, vous avez à la fois des métriques qui sont, on va dire, du point de vue des scientomètres, de faux facteurs d'impact. Et vous avez également des entreprises qui se montent, qui vous proposent des indices. Et donc, vous avez un terme très développé sur ces questions, qui sont les predatory journals, c'est-à-dire des revues prédatrices qui viennent chercher des auteurs en leur faisant miroiter, voilà, des taux de citation, des taux de réputation mirobolants, avec tout un tas de choses qui sont relativement infondées, parce que bien sûr, vous payez pour publier dans la revue, puis à l'arrivée, il n'y a peut-être pas de revue, quoi. Pour conclure, on a des revues d'excellence, configuration 1, et des métriques qui, ce sont, sur les revues qui étaient liées à une économie de la rareté de l'espace de publication. Et donc cette rareté a été diminuée par la hausse du nombre d'auteurs, puisqu'il n'y a plus de place. Il y a plus de place dans les articles, on va mettre plus d'auteurs sur les articles, on va augmenter le nombre de pages par article, mais ce n'est pas évident, on va découper les revues en nombre de numéros, on va augmenter le nombre de revues. Et puis parallèlement, vous avez des mesures de citation qui ont contribué à organiser cette rareté, puisqu'on avait des revues très prestigieuses, celles qui avaient un gros, gros, gros facteur d'impact. Et donc on a une séparation assez nette entre l'épreuve de certification publiée dans X, telle revue, et la mesure de la diffusion à travers les citations. Avec le déplacement récent des métriques vers les articles, la donne est complètement changée. D'un certain point de vue, tenir compte du big data, tel que défini dans la troisième configuration notamment, déjà dans la deuxième, mais dans la troisième c'est assez présent, enfin c'est beaucoup plus présent. Donc tenir compte du big data, c'est prendre acte des modifications du prestige et de la valeur des revues. Mais c'est aussi prendre acte du processus d'évaluation par les pairs lui-même, avec cette idée que le lecteur, le étant avec tout un tas de déclinaisons possibles, devient le valideur qui se joue ex post publication. Merci.